Oui, ce verset est vraiment un encouragement pour les jeunes parents aussi quant à la maternité, parce que c'est Étienne qui dit en ce temps-là naquit Moïse, un temps terrible où il fallait jeter les garçons dans le fleuve. Bon, certains disent aujourd'hui, toute façon on est à la fin, pourquoi avoir des enfants? On les amène dans un monde terrible. Est-ce que ça peut provoquer un exercice de refus même de la maternité? Eh bien, on est encouragé par les parents de Moïse. En ce temps-là, naquit Moïse. Et donc ils l'ont caché, mais on peut pas toujours cacher nos enfants. Elle a exposé ses enfants dans le fleuve, mais pas en plein courant. Dans les roseaux, bon, roseaux peut-être image des prières qui retiennent. Et puis les enfants grandissent. Moïse a grandi. Maintenant, c'est pas la foi de ses parents, c'est par la foi Moïse. Alors il fait trois choses. Il refuse, il choisit parce qu'il l'estime. C'est toujours une estimation finalement. Sarah, elle avait estimé fidèle celui qui avait promis. Abraham, il a estimé que Dieu pouvait le ressusciter d'entre les morts, et Moïse, il estime l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. L'opprobre du Christ, expression étonnante. Déjà, les souffrances du peuple esclave en Égypte, c'était les souffrances du Christ à l'avance. Et il préfère ses souffrances aux délices du péché. Les délices du péché. C'est très agréable, les délices du péché, encore aujourd'hui. Mais Moïse, par la foi, refuse d'être appelé fils de la fille du Pharaon, un titre de honorifique, d'être dans cette cour, là, mais parce qu'il choisit de s'associer, de s'identifier avec ce peuple qui souffre et qui est appelé ici le peuple de Dieu. Et un peuple d'esclaves qui souffre, mais qui est le peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui encore, le peuple de Dieu, l'Église, c'est pas un peuple de notables, c'est pas très brillant. Bon, on voudrait que l'Église soit autrement, que les chrétiens soient plus fidèles et plus se fassent plus remarquer dans le monde. Mais non, c'est un peuple affligé, peut-être humilié, comme dit Sophonie. Mais c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église de Dieu. Est-ce que je veux m'associer à ce peuple malgré ses manquements, malgré bon, voilà, parce que c'est l'Église du Seigneur. C'est pour ça que je désire m'associer à cette Église-là, cette Église aussi souffrante aujourd'hui.
Le caractère de qui nous est présenté à l'égard de la foi de Moïse. C'est un caractère de renoncement. Et le but, ou plutôt la conséquence de ce renoncement, ça a été la victoire. Victoire sur le monde. On le voit bien, un homme qui avait eu un privilège extraordinaire d'être élevé à la cour du Pharaon. Victoire sur l'épreuve. Que d'épreuves il a eues dans sa propre vie. Victoire sur la mort, parce que dans la traversée de la mer Rouge et avant dans la Pâque, il savait qu'un jour viendrait où le Seigneur donnerait sa propre vie pour que nous ayons la vie éternelle. Alors dans le verset 24, c'est le renoncement à la renommée. C'est très actuel, ça. On aime être quelque chose. Dans le verset 25, c'est le renoncement au plaisir. Ça coûte. C'est pas facile. Dans le verset 26, c'est le renoncement à la vie facile. Et dans le verset 28, c'est le renoncement à la religion égyptienne, lui qui avait trempé dedans, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais combien il est beau, de voir que Christ est au centre. Tout à l'heure, je pensais à Joseph. Le caractère même de ce qui nous est présenté là, c'est que Joseph sait. Joseph sait qu'il va aller en Canaan et que la promesse de Dieu faite à Abraham va s'accomplir. Donc il ne veut pas rester là, en Égypte. Il sait que Dieu va accomplir. Paul a écrit à Timothée, « Je sais qui j'ai cru et qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. » La foi, c'est. C'est une foi de certitude, comme on le chante souvent, et comme on le vit encore mieux. Mais ce caractère de, ou ces caractères de renoncement sont essentiels parce qu'ils sont actuels. Le monde dans lequel nous sommes nous impose des renoncements si nous voulons vivre par la foi. Ça coûte. Mais quel résultat extraordinaire.
Pierre vient de parler de renoncer, il a dit le renoncement, renoncer. Mais je pense à notre verbe, c'est le mot fuir. Et dans l'Épître à Timothée, il est dit « Fuis les convoitises de la jeunesse ». Résister à ce courant dans lequel nous nous trouvons tous et les uns et les autres. Et pourquoi résister ? Pour ne pas céder à la tentation, parce que n'oublions pas que l'ennemi est très très malin et nous n'avons besoin de lui faire un schéma. Il sait très bien ce qu'il peut nous faire glisser, nous écarter du Seigneur, nous éloigner de lui. Alors fuir le convoitise de la jeunesse. Si nous voulons déjà ne pas céder à la tentation, le meilleur moyen c'est de ne pas aller vers quelque chose qui nous tente. Si nous sommes tentés, l'apôtre Jacques, je crois, dit que nul ne peut dire qu'il est tenté par Dieu, car Dieu ne tente personne. Mais celui qui nous tente, c'est bien l'ennemi de nos âmes. Eh bien, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Et là aussi, c'est par la foi qu'il nous faut saisir ce verset. La parole de Dieu le dit, c'est certain, il n'y a pas de doute, si je résiste au diable, il s'enfuira de moi.
Une remarque sur le paragraphe donc de Moïse et ses parents. Il y a trois fois le verbe « regarder » ou « voir ». Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne un peu un résumé de ce qu'est la foi. Donc je vais commencer par la fin. Moïse a vu ce qui était invisible. Voilà, la foi oublie le visible et s'intéresse à l'invisible. Ensuite, il regardait la rémunération, verset 26, c'est-à-dire au futur, à la récompense future. La foi oublie le présent et s'intéresse au futur. Et puis les parents, ils ont vu que l'enfant était beau. Bon, Jean l'a dit, c'est subjectif, ils l'ont aimé en fait. Et parce que c'était leur enfant, tout simplement. Et la foi oublie la raison et laisse parler le cœur. Et c'est vrai que la société dans laquelle on vit ne nous forme pas tellement à voir comme ça. On est dans une société de l'image, donc l'invisible, c'est un petit peu atypique. On est dans une société du présent, de l'immédiat, du rapide. Donc le futur, ça n'intéresse pas tellement. Et puis on est dans la société de la raison, de la recherche permanente, de la remise en question permanente. Donc les coups de cœur, laisser parler le cœur, c'est plutôt vu comme une faiblesse. Donc voilà, la foi, elle va un peu à contre-courant de certaines valeurs qui sont ambiantes autour de nous. Donc c'est un défi, la foi, aujourd'hui.
Alors, on voit que la foi est en action dans cet exemple de Moïse tout le long du paragraphe. Du verset 23 au verset 31, on ne voit que ça. Cette fois, il est fait mention de la foi dans toutes les étapes de la vie de Moïse et puis au-delà, parce qu'après il y aura Jéricho qui va tomber, là c'est plus Moïse, c'est Josué, et puis Arabe aussi qui est rappelé par la foi aussi. Mais enfin, cette fois, il est question de ce mot. La foi. Et c'est très très beau de voir ce jeune homme, Moïse, Il n'était pas vieux lorsqu'il était près de la fille du pharaon. C'est sûr qu'il est resté en Égypte, nous le savons, environ 40 ans. Après, il y a eu une autre période de 40 ans au désert où il a appris beaucoup de choses, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et puis une troisième période de 40 ans dans la vie de Moïse, trois périodes donc. Mais il était jeune. Et ce jeune homme, il marchait par la foi, constamment par la foi. Dans toutes ces déterminations, voilà un jeune homme déterminé. Et il nous faut aujourd'hui des chrétiens déterminés.
Je crois que pour faire ce choix du renoncement, finalement, il faut donner une juste valeur aux choses. Donc Pierre-Henri a fait allusion aux valeurs du monde. Le monde a ses valeurs et classe les gens en fonction de ses valeurs. Et finalement, le sermon sur la montagne que fait le Seigneur, c'est une inversion des valeurs du monde. C'est-à-dire, il prend contre-pied la façon dont le monde donne des valeurs aux choses et il va montrer aux siens ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et je crois qu'il c'est vraiment cela qui va nous permettre à faire ce renoncement à ses choix, à ses actes, par la foi, parce qu'on va donner une valeur aux choses, et une valeur qui va être finalement selon Dieu. Et c'est là où on revient, où on rebascule sur la relation, c'est-à-dire que plus je vais connaître Dieu, plus je vais être intime avec lui, plus je vais être capable finalement de donner la valeur, la juste valeur aux choses, c'est-à-dire la valeur selon Dieu. Et quand il va y avoir les choses qui vont se présenter à moi, eh bien je vais choisir, eh bien je vais estimer. Qu'est-ce que selon Dieu va avoir plus de poids, plus de valeur? Et finalement, ça va être l'appréciation divine sur les choses, parce que Dieu a un avis sur tout et sur tous. L'appréciation divine sur les choses et puis l'appréciation du monde. Le monde va dire ça c'est bien, Dieu va dire ça c'est mal. Où il y a des choses qui vont, que Pierre-Henri faisait allusion à ce monde qui nous pousse, ben oui, on y est dedans. Mais il va nous pousser, ces valeurs vont être là, elles vont nous pousser en avant et puis avec cette intimité avec Dieu, je vais pouvoir dire non, ça a plus de valeur pour Dieu. Alors c'est pour cela, je crois que il faut bien comprendre que c'est pas simplement se faire guider comme ça dans le vide. Il y a cette notion de l'abandon, bien sûr. On voit bien ces hommes, ces femmes, ils vont faire des choix selon la foi. Ils savent pas toujours ce qu'il va y avoir derrière. Mais ils le font parce qu'ils savent en qui ils se fient. Mais ils vont pouvoir donner des appréciations sur les choses, de la vraie valeur sur les choses. Et le sermon sur la montagne, il est vraiment, et Pierre-Henri faisait allusion à l'amour qui aujourd'hui est considéré comme une faiblesse. Le Seigneur montre, va donner une juste valeur des choses, la valeur divine aux choses. Et c'est pour cela qu'automatiquement, ça va nous conduire à être en confrontation avec le monde, à aller en contre-courant. Ce que Dieu va appeler force, le monde va l'appeler faiblesse, bien sûr. Mais on aura estimé. Et ça se passe dans le cœur. Et ça, personne ne peut contrer cela. Et je crois que c'est vraiment important et ça va nous aider tous. C'est pas simplement une question de jeunesse ou de vieillesse, mais on va être tous confrontés à chaque moment, à des choix, des choses qu'il va falloir choisir, des choses qu'il va falloir estimer. Et je crois que la foi, elle a aussi sa place là. Quelle valeur Dieu va donner à cette circonstance, à cette chose, à ce qu'on me propose? Quel est son juste regard sur la chose en question? Et ça, c'est aussi important. Et il faut qu'on ait vraiment les sens aiguisés et puis une vraie intimité avec le Seigneur pour pouvoir donner une valeur aux choses qui est une valeur selon Dieu.
Et il avait devant lui quelque chose devant ses yeux, justement, pour orienter sa valeur. Tu l'as dit, Pierre-Henri, il voyait celui qui est invisible. Et tout à l'heure, si on a le temps, au chapitre 12, nous aurons aussi les yeux fixé sur Jésus. On se souvient que sa première rencontre, c'est au buisson ardent. Au buisson ardent, il s'est détourné pour voir cette grande vision. Il voyait celui qui était invisible. Un plus tard, il demandera à Dieu de voir sa gloire, et Dieu lui dira non, tu me verras par derrière, tu verras ma bonté. parce que personne ne peut voir Dieu. Donc il a appris beaucoup de leçons, et il a ça au fond de lui, un grand secret, à la fin de sa vie, quand il bénit toutes les tribus, il parlera de Joseph et il dira, il parlera de la faveur de celui qui demeurait dans le buisson. C'est tellement fort, cette rencontre, qu'elle est devant ses yeux pour toute sa vie. Alors après avoir su son exemple, et donc c'est sa foi, après celle de ses parents, on a sa foi beaucoup très très active, comme l'a dit Jean, il y a un moment où c'est la foi de chacun qui est demandée. Verset 29, par la foi, ils traversèrent, pluriel, la mer Rouge. Il y a un moment où on est encouragé par les autres, puis il y a un moment où il faut se décider soi-même, et là c'est chacun qui devait avancer avec ses murs d'eau autour, et chacun personnellement devait dire, eh bien je vais. C'était pas la foi des parents, c'était, voilà, chacun traverse et s'engage, et sachant que quelqu'un qui essaye sans avoir la foi, il est englouti. Quelqu'un d'une famille chrétienne qui fait comme si, en fait, il sera englouti dans la vie, parce qu'il faut une décision personnelle.
On comprend qu'il fallait que la foi de Moïse soit ferme en Dieu, c'est-à-dire qu'il se fie à Dieu d'une façon ferme pour faire sortir d'Égypte à la tête de 2 ou 3 millions de personnes. C'était pas seulement lui. Sa responsabilité était engagée par rapport à tout le peuple. Donc c'est la foi d'un conducteur aussi là. Il a fait la Pâque par la foi. Ils traversèrent la mer. Bon, il y avait le mur d'eau de chaque côté, il fallait quand même y aller. Donc Moïse à la tête, c'est le conducteur qui se fie à Dieu. Mais à côté de ce grand conducteur, qu'on dira il a une foi immense, il y a Rahab la prostituée. Pas tout à fait pareil. Hein. Et c'est quand même étonnant que l'Esprit de Dieu ait conservé la prostituée. Ça aurait pu être enlevé, et dans Jacques aussi. Non, non, ici comme dans Jacques, c'est bien Rahab la prostituée, son ancienne pratique honteuse est collée à son nom, reste collée à son nom. C'est pourquoi ça? Pour la noirir devant nos yeux? Non. Pour faire briller, je crois, la grâce de Dieu. Mais pour faire briller aussi sa foi. Elle n'a pas conduit 2 ou 3 millions de personnes, elle a caché les espions ou les messagers dans Jacques. Elle n'a pas fait grand-chose. Mais c'était capital pour la prise de Jéricho. Donc, on pourrait relever des grands actes de foi, des serviteurs de Dieu, des conducteurs de Dieu. Et voilà que cet acte de foi de cette deuxième femme de la liste est souligné. Donc, la dernière fois, nous avions dit dans l'essai de division du chapitre qu'à partir du verset 23 jusqu'au 38, c'était la foi devant le monde et devant Satan. Et ça, c'est toujours d'actualité, comme on vient de le voir. Et dans la suite, il nous faut passer rapidement dans les versets 32 à 38, on voit ces puissances, cette puissance du monde, de Satan, qui se cache derrière, contre Gédéon, contre Barak, contre Samson, contre Jephté, contre David. Le monde et Satan prennent des formes différentes, mais c'est toujours cette puissance qui est contre les croyants et contre leur foi. Mais la foi triomphe dans chaque cas différent. Pour délivrer, oui, jusqu'à la fin du verset 34. Et là, au verset 35, on sent bien il y a une rupture au chapitre 35. Ils ont été délivrés par la foi jusque-là. Et puis, après, ils sont sciés, tentés, lapidés, égorgés, etc. Ils subissent des mauvais traitements, ils sont mis à mort. Tandis que, bon, Daniel, dans la fosse aux lions, il échappe. Mais non, ils échappent pas tous. La mort intervient, mais pour une meilleure résurrection. Et l'épître aux Hébreux, c'est l'épître aussi des choses meilleures. C'est intéressant de rechercher une meilleure résurrection. Et nous pensons à ces temps de persécution, même dans nos régions, où les bûchers s'allumaient par centaines. Bon, ils n'ont pas été délivrés, mais non. Et pourtant, leur foi est active. Mais comme tu l'as dit, Peter, la dernière fois, dans le premier cas, ils obtinrent les choses promises, et dans le deuxième cas, ils n'obtinrent pas les choses promises, mais dans les deux cas, la foi a brillé. Et, bien sûr, nous arrivons au chef en qui cette foi a brillé sans ombre. C'est pour ça qu'il est le chef.
Un petit mot là à propos de ce passage où il est dit, verset 34, hein, « De faibles qu'ils étaient, ils furent rendus vigoureux, devinrent forts dans la bataille. » Nous nous souvenons d'Abraham, comme je disais la dernière fois, qu'il n'était pas faible dans la foi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous ayons dans nos cœurs, dans nos esprits, de ne pas être faible dans la foi. Et c'est la faiblesse, justement, que la puissance de Dieu peut s'accomplir lorsqu'elle est ressentie, cette faiblesse, bien sûr. Mais il ne faut pas être faible dans la foi. Il faut vraiment aller de l'avant et faire confiance au Seigneur. Et nous deviendrons vigoureux, comme c'est dit là, pour tous ces personnages.
À partir verset 33, il n'y a plus de nom. Alors qu'avant, les noms étaient cités. Et il y a une conséquence pour nous, une conséquence merveilleuse, un encouragement. Nous avons tous à vivre par la foi. Bien sûr qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament la plupart de ce qui est cité là et mettre des noms. Mais est-ce que je puis mettre mon nom? Dans un cas où une victoire est remportée, ou dans un cas où c'est difficile, on peut être à l'école, par exemple, subir de l'opprobre. Qu'est-ce qui va me faire aller de l'avant? C'est la foi. Mais peut-être que l'opprobre va continuer. Mais comme cela a été dit plusieurs fois, la relation avec Dieu passe par là, par la vie de foi. Et c'est ça qui me permet d'être encouragé. Je crois que l'Esprit de Dieu ici nous montre bien que toute notre vie doit lui être consacrée par la foi.
Et donc cet esprit qui est le directeur de ce que nous sommes en train de dire, rappelle au verset 2 du chapitre, c'est pourquoi les anciens ont reçu témoignage. Et ici, au verset 39, et tout ceci ayant reçu témoignage. Donc nous sommes vraiment à la fin, entre ces deux versets, en quelque sorte, il y a tous ces témoins qui ont été présentés par Dieu lui-même. Il s'agissait toujours pour tous ces Hébreux de comprendre et de voir ceux qui avaient vécu par la foi et tout ce qu'ils avaient pu faire et accomplir, et de quelle manière Dieu avait été glorifié dans cette vie de foi, cette marche par la foi. Les triomphes de ces qui ont été remportés, ces victoires, et ils ont reçu témoignage. Le recevoir, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui les déclare comme ses témoins. C'est quelque chose de, c'est une belle parole divine. Ils reçoivent témoignage. Et alors, nous continuons. Et alors, c'est pourquoi aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, on continue ce sujet. La parole vient montrer, ce sont des témoins, tous ceux que nous venons de voir, ce sont des témoins. Mais alors, là, c'est au présent. On pourrait se dire, mais alors, c'était les témoins qui sont déjà, il y avait ceux d'avant. Mais non, la parole est au présent. Une si grande nuée de témoins qui nous entourent. À ce moment-là, effectivement, on aborde l'arrivée et la contemplation de notre chef, de ce consommateur de la foi. Mais en même temps, il y a autour de nous une grande nuée de témoins. Mais quelle est-elle, cette grande nuée de témoins? Il y a ceux que l'on vient de voir, mais il y a aussi tous ceux qui sont là aujourd'hui. Tous ceux qui aujourd'hui sont peut-être persécutés pour leur foi. Ceux qui, en Inde, en Chine, ailleurs, ils sont nombreux les témoins. Il y a ceux que nous évoquons, il y a ceux que nous connaissons dans notre famille de la foi, ceux dans notre voisinage, ceux dans l'église catholique à côté ou dans une autre église. Il y a des témoins. C'est une nuée de témoins qui nous entoure. Et alors, il faut bien voir que l'auteur et Dieu nous dit, voilà, une grande nuée de témoins nous entoure. Ensuite, nous avons à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes bien présents dans ce monde. Courons avec patience la course. Continuons la course. La voilà, cette course. Nous sommes nous-mêmes engagés. On revient maintenant sur nous-mêmes, engagés dans cette course, vivant de foi, avec cet exemple que nous avons eu et la nuée de témoins qui nous entoure, qui est là pour que nous puissions être encouragés les uns les autres, que nous puissions imiter la foi de nos conducteurs, de nos frères, de nos sœurs, cette foi qui est à imiter. Elle est là présente. Et bien sûr, nos regards sont attirés et doivent être fixés sur le Seigneur lui-même.
Dans le chapitre 13, au verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. » Je me rappelle de ce qu'un commentateur donc a écrit sur ce début de ce chapitre 12. Je dis ça pour que ça se fixe bien dans nos esprits. Regardez à la foi de ceux qui vous entourent. Bien sûr, il y a ce qui est historique. Jean-Philippe l'a rappelé et a rappelé aussi ce qui est présent. Ça, c'est le début du verset premier. Et puis, la fin du verset premier, regardez à vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Courons avec patience la course qui est devant nous. Ah oui. C'est une course. On court. Mais avec patience, c'est une course d'endurance. On l'a bien vu dans le cas, par exemple, dans la vie d'un Abraham ou dans la vie d'un Moïse. Et le troisième point, qui est le principal, regardez à Christ. Regardez à ceux qui vous entourent, vous n'êtes pas seul. La foi de ceux qui vous entourent peut vous encourager. Regardez à vous-même, à votre foi. Non, courez, avancez. Mais fixez les yeux sur Christ, regardez à Christ.
Fixant les yeux sur Jésus. Ce nom n'est pas anodin ici. C'est la septième fois sur 9 mentions dans l'Épître aux Hébreux. Nous avons Jésus, son nom seul, Jésus. C'est pas Seigneur, c'est pas Seigneur Jésus, c'est pas Seigneur Jésus-Christ, non. C'est Jésus, l'homme des sentiers de la Palestine. L'homme humble, débonnaire, mais dans Jésus il y a aussi le Sauveur, mais cet homme qui a marché dans ce monde et qui s'est fié à Dieu d'un bout à l'autre de sa vie. Et ça, c'est, il nous faut étudier la foi de Jésus. Il est dit, dans les psaumes, tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est la confiance du nouveau-né, c'est mystérieux, mais et après la confiance, la foi de Jésus à Nazareth, alors qu'il est caché, il y aurait beaucoup à dire, et sa foi dans son ministère, sa foi en Dieu dans son ministère, sa foi aux approches de la croix, et sa foi en Dieu sur la croix. Même les ennemis savaient que Jésus se confie en Dieu, qu'il se confie en l'Éternel, qu'il le fasse échapper. C'est comme Ézéchias, les ennemis savaient qu'Ézéchias se confie en Dieu. C'est une image du Seigneur. Donc la foi de Jésus, la foi de cet homme qui a marché sur la terre, Et c'est une image, enfin c'est un exemple pour nous. Et cette foi n'a jamais eu de défaillance, même aussi devant la mort. Nous parlions tout à l'heure de ces hommes de foi qui ont eu foi en Dieu, qui se sont fiés à Dieu devant la mort. Eh bien, le Seigneur Jésus aussi devant la mort. Psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me conduiras dans les sentiers de la vie. » Et dans le psaume 102 aussi, « Ne m'enlève pas la moitié de mes jours. » Le Seigneur sentait ce que c'était que de mourir à 33 ans. C'est pas normal. Et il a eu des exercices d'âme. Mais la foi en Dieu n'a jamais faibli. Et même dans les heures sombres de la croix, quand son Dieu l'abandonnait, vers qui criait-il sa détresse? Vers son Dieu. Même dans ces moments-là, sa foi n'a pas fléchi. Donc là, c'est pour ça qu'il a un exemple parfait, c'est pour ça qu'il est le chef, et il a terminé, il est le consommateur, il l'a rendu parfaite. Dans l'Épître aux Hébreux, consommateur, consommer, ça veut dire rendre parfait. Il a rendu parfait cette vie de foi, et il en est le chef, et il l'a rendu parfaite. Il est arrivé, lui. Nous sommes en chemin, encore sur la terre, des croyants qui marchent par la foi, en lui, le chef. Lui, il est arrivé, pas encore.
Et le secret de cette vie de liberté, de cette vie de où on avance, c'est bien de fixer les yeux sur lui. Il n'y a pas de puissance dans des règles, il n'y a pas de force dans des lois, dans des interdits. La puissance, elle vient de ce qui nous attire, de ce que nous l'aimons et de ce que nous faisons pour lui et pour d'autres. La puissance, elle est dans la grâce, elle est dans l'amour, elle n'est pas du tout dans l'interdit. Et c'est ce qu'on ressent en lisant ça, parce que on voit qu'on rejette tout fardeau. Ça, c'est les échelles de valeur dont tu parlais tout à l'heure. Le fardeau, c'est des choses finalement légitimes et qui encombrent. Alors l'athlète n'a pas besoin de ça. Alors tout m'est permis, mais c'est pas utile. Alors j'en ai pas besoin pour courir. Et puis alors le péché qui enveloppe si aisément, mais on voit bien qu'il reste pas à tourner en rond avec son péché. Il avance parce que il est attiré par le Seigneur, fixant les yeux sur Jésus. Lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. C'était notre sujet à La Rochelle avec Lucien et Peter et d'autres. La joie qui était devant lui. Alors, il y avait plusieurs joies qui étaient devant lui. Et on peut en citer quelques-unes. L'une que l'on voit, c'est ce qu'on peut voir dans le psaume 16, c'est la joie de retrouver son Père, la joie de la résurrection. Le psaume 16, qui est un psaume messianique, « Tu me feras connaître le chemin de la vie, c'est sa résurrection, ta face est un rassasiement de joie, et il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Il y avait sûrement aussi la joie du fruit du travail de son âme, Ésaïe 53, qu'on peut aussi lire dans Jude, « Celui qui a le pouvoir de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. » La joie de voir du fruit. Et puis on peut le citer aussi, il y en a d'autres, mais on peut citer Luc 15, et bien le bon berger qui met sa brebis sur ses épaules, tout joyeux.
Pour faire suite à ce que tu disais, Frédéric, sur l'amour, je crois qu'il nous faut quand même lire 1 Corinthiens 13. Et au verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et si j'ai la prophétie que je connaisse tous les mystères et toutes les connaissances, et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 13, or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi de manière à transporter des montagnes. Après deux soirées sur la foi, on aimerait sortir avec une telle foi. Personne dans ce local ne voudrait sortir en n'ayant pas une telle foi. Pensez donc, franchir l'enceinte du local et être capable à la sortie de transporter des montagnes. Combien nos vies changeraient, nous semble-t-il. Mais la parole de Dieu vient nous dire: si je suis capable de vivre ces choses et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et on en revient encore à la relation, la vie de foi. Elle n'a que son sens. elle n'a que sa puissance dans la mesure où mon cœur est engagé d'amour pour le Seigneur d'abord. Fixer les yeux sur lui. Il y a plusieurs façons de faire une course. C'est un jeune qui me l'a dit il n'y a pas longtemps et ça m'a beaucoup parlé et j'aimerais le redire. Il m'a dit il y a deux façons d'aller vers un objectif en partant du même endroit. La première façon, c'est de faire des pieds, des traces droites avec mes pieds. La deuxième façon, c'est de regarder où je dois aller, d'y mettre tout mon cœur et de foncer. Et la deuxième façon, fait une ligne plus droite. Si je regarde mes pieds, je m'épluche moi-même. Si je regarde l'objet de ma foi, si mon cœur tout entier est engagé vers l'objet de ma foi, c'est Dieu qui va évaluer la ligne droite. C'est Dieu qui va donner son appréciation sur le chemin. Et la parole de Dieu vient nous dire, mais si vos cœurs sont pas engagés, et n'oublions pas que le péché veut dire louper la cible, et chaque fois que je manque à l'amour, dans ma vie de tous les jours, je manque la cible et je pêche. Et il y a des situations qui vont se présenter qu'une fois. Une personne se présente à moi, j'ai le choix d'agir avec amour ou sans amour. C'est pas simplement un sentiment affable, c'est une puissance. Eh bien, si je n'ai pas ça, faut pas parler de foi. Faut pas parler de foi. Mais si j'ai ça, c'est sûr. Qui nous empêche d'avancer, ben des fois on va se les mettre nous-mêmes. Lorsqu'on fait allusion à ce verset d'Hébreux 13, imiter la foi, parfois on le confond avec imiter leur conduite. Et je me charge de choses en disant il faut que je plaise aux générations d'avant. David, en sa génération, avait servi au conseil de Dieu. Et ces versets sont là vraiment pour nous mettre en avant, en mouvement. On a un objectif, une personne qu'on aime. On a à servir, à vivre. Je peux intérieur de se fier à Dieu dans l'amour et pour l'amour.
Oui, puisque Christophe a évoqué le registre sportif, peut-être pour bien comprendre ces termes de chef et consommateur, je fais une proposition en termes un peu sportifs et en anglais, parce que quelquefois les langues étrangères nous aident à mieux cerner les mots grecs. Le chef, ça serait peut-être un peu le leader, qui a une la note maximum, c'est le record absolu qui ne pourra jamais être battu. Donc le Seigneur Jésus est le leader de la foi, le premier avec une longueur d'avance, et il est recordman absolu, il a mené effectivement la foi à la perfection.